Au menu de notre club des têtes au carré cet après-midi, Marcel Proust décortiqué à la lumière de la psychologie cognitive sur la piste des grands singes à la rencontre des orangs-outans et puis le végétarisme qui ne manque pas d'ennemis. Et puis à la une de la science, le témoignage d'une mère, Sarah Levin, qui a eu recours à la gestation pour autrui aux États-Unis. Elle publie un livre avec celle qui lui a permis d'être mère. Violaine Ballet réalise cette nouvelle tête au carré qui a été préparée par Anne-Cécile Perrin avec François Mercier et Fanny Cohen-Moreau.
La tête au carré. Le club avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Et donc à la une de la science aujourd'hui, la gestation pour autrui et le témoignage d'une maman. Bonjour Sarah Levin.
Bonjour.
Vous avez eu recours à la GPA en vous rendant aux États-Unis où Aimée Melton s'est portée candidate donc pour porter votre enfant et vous raconter ensemble cette aventure dans un livre intitulé « Lorsqu'on n'a que l'amour » qui est publié chez Flammarion. Alors vous êtes vous-même américaine, vous vivez en France maintenant depuis 10 ans et vous êtes la maman de 2 enfants, nés donc tous les deux grâce à la gestation pour autrui. Vous avez souhaité témoigner de votre expérience dans un pays comme le nôtre qui est opposé à cette pratique, hein.
Je pense que c'est important pour voir un vrai cas, comment ça se passe dans la vraie vie, mm-hmm. pour ensuite avoir un avis informé. Parce que ouais. Je pense qu'en France, il y a beaucoup de gens qui ont un avis sans beaucoup d'informations.
Et vous avez voulu donner une autre facette de la GPA aussi, en profiter pour répondre à certaines idées reçues ici en France.
C'était plus pour avoir la transparence, pour montrer notre expérience, moi de mon côté, tout ce que j'ai vécu, pourquoi je suis arrivée là. Mm-hmm. Et puis Amy, la mère porteuse de mon fils, pour qu'elle explique dans ses propres mots pourquoi, quelles sont ses motivations et comment elle a vécu ça. Ouais. Et ensuite, les gens peuvent prendre les avis qu'ils veulent, est-ce que c'est bien passé, est-ce que c'est éthique et tout cela. Mais basé sur un vrai cas, comment ça se passe dans la vraie vie. Parce ouais. que la majorité des gestations pour autrui qui se passent pour les couples français se passent plutôt aux États-Unis ou au Canada, ouais. plutôt dans les mêmes conditions que le nôtre.
Ouais. Est-ce qu'on peut dire que c'est une histoire de famille aussi?
Ah, c'est sûr. C'est surtout une histoire de l'amour qui est la base d'une famille. Et puis que Amy, qui adore être mère, a voulu donner cette possibilité ouais. à une autre femme.
Alors c'est ça qui est étonnant, c'est parce que vous donnez une place très particulière à la mère porteuse hein, dans ce témoignage. C'est-à-dire qu'elle existe, il n'y a pas d'anonymat. C'est loin d'être un ventre porteur uniquement. C'est une personne à part entière que vous fréquentez encore, que vos enfants connaissent.
Ouais, pour moi, c'est devenu comme une autre sœur. Et moi, je ne peux pas imaginer vivre une telle expérience sans créer ce type de lien. Mais c'est clair que ça aussi, ça fait partie de nos personnalités, de nos conditions. Mais aussi, c'était pour nous très important d'avoir quelqu'un avec lequel on voyait un avenir dans l'histoire de notre famille.
Et ça... pas seulement après l'accouchement. Hein.
Exact. Et il y a une chose que dans le monde de la gestation pour autrui, il y a beaucoup de mots qui sont utilisés en anglais comme en français pour essayer de garder le mot mère que pour la femme commanditaire, si on veut, la mère d'intention, on dit souvent. Oui. Et puis, on dit que la femme qui porte l'enfant, on appelle souvent la gestatrice, mm-hmm. Parce qu'en général, les gens qui sont impliqués dans le débat de GPA, gestation pour autrui, ne veulent pas utiliser le mot mère porteuse. Mais moi, ça ne me gêne pas du tout qu'elle soit mère porteuse, parce qu'elle est surtout, elle est maman. Elle est une mère. Et elle a porté mon enfant avec un geste d'amour. Et je n'ai pas besoin d'enlever sa maternité pour le garder uniquement pour moi.
Mais
parce que s'il
dire...
n'y avait pas ça, ouais. je ne serais pas maman.
Mais il y a 3 parents alors autour de vos enfants ou
non,
pas?
Non, il y a 2 parents. C'est mon mari et moi sont mes ouais. parents, point barre. Mais Amy, c'est quelqu'un qui lui a mis au monde et qui lui a gardé pour nous et donné beaucoup d'amour et de son corps pour le grandir pour les premiers 9 mois.
Oui. C'est la mère porteuse de votre garçon?
Oui.
Donc c'est l'aîné de la famille. Et comment il parle de cette mère porteuse?
Bon, il l'appelle Amy, mais du même façon qu'il appelle toutes les tantes et tous les oncles par leur prénom. Donc, ouais. Elle n'a pas un statut différent que ma sœur, par exemple, qui est sa tante. Mais pour lui, c'est quelqu'un qui est parti de sa famille. Je pense que si on lui disait qu'elle n'était pas partie de la famille, ça, il ne comprendrait pas.
Donc, il connaît toute l'histoire.
Ah, il connaît toute
l'histoire. Il a quel âge exactement maintenant?
3 ans et demi.
Oui, c'est ça.
Et il peut expliquer son histoire à quelqu'un d'autre. Il dit le ventre de maman est cassé et Amy m'a mis dans son ventre.
Oui. Point barre. Donc pour lui, c'est normal.
Pour lui, c'est normal.
Oui. Comment vous avez eu recours à cette méthode de procréation au départ? Qu'est-ce qui vous a amené à cela?
Oui, bon, ce n'était pas le premier choix. Je pense qu'il n'y a personne qui arrive là en premier lieu. Mm-hmm. Donc moi et mon mari, on était dans un parcours procréation médicale assistée assez classique. On a fait des inséminations, ça n'a pas marché. J'ai eu une fausse couche. On a fait une FIV ici en France et j'ai eu une grossesse extra-utérine. Une autre FIV qui n'a pas abouti. Et puis, mon médecin français m'avait dit un jour, parce que je disais que je partais pour les vacances aux États-Unis voir ma famille, il dit « Oui, en quelle ville ?» J'ai dit « Denver ». Et il a dit « Ah, la meilleure clinique de fertilité dans le monde est là. » Donc, si ça ne marche pas, c'est que la procédure qu'on était en train de faire, il dit « Si ça ne marche pas, il faut que vous rendez là-bas pour voir qu'est-ce qu'ils font. » Bon, ça n'a pas marché. Quelques mois plus tard, je suis revenue le voir. J'ai dit, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous dites que c'est beaucoup mieux que ce qui se passe en France? Et là, j'ai compris que la technologie américaine était beaucoup plus poussée que la technologie française, pour plusieurs raisons. Dès que je pouvais, j'ai mis un rendez-vous aux États-Unis pour commencer à faire un FIV aux États-Unis. Lors du process de ce FIV aux États-Unis, ils ont découvert un cancer de l'endomètre. Donc là, les options se fermaient rapidement en termes d'avoir un enfant. J'avais aussi presque 40 ans. Et quand j'ai vu les traitements pour le cancer, j'ai su assez rapidement que c'était un stade débutante et que les chances de survie étaient très, très élevées, mais qu'une gestation pour autrui était une des possibilités pour toujours être en quête d'un enfant.
Et donc, c'est comme ça que vous avez rencontré Amy?
Et donc, moi, j'ai su que j'avais besoin d'avoir une mère porteuse pour avoir un enfant. Et c'est ma soeur qui est sage-femme, qui avait une autre sage-femme avec laquelle elle travaillait, qui avait évoqué qu'elle voulait être mère porteuse. Donc, elle nous a mis en contact. Et donc, on n'a pas dû passer par une agence, ce qui est usuel. On a passé par... pour moi, c'était une inconnue, mais c'était connu de quelqu'un de ma famille. Donc, c'était quand même un soulagement assez important.
Ouais. En France, beaucoup de gens sont très frileux, évidemment, autour de la GPA. Comment réagissent les gens lorsque vous racontez votre histoire ici avec beaucoup de liberté, on le voit?
C'est pas la première chose que j'ai dit à quelqu'un quand je le rencontre, mais en même temps, je le cache pas et c'est assez rapidement que j'en parle. On n'a jamais eu, ni moi ni mon mari, on n'a jamais eu une seule personne qui nous a dit quelque chose de négatif de notre parcours. Bon, c'est toujours possible que les gens cachent leurs vraies émotions et n'osent pas dire en vive voix à quelqu'un. Mais ce que je pense, c'est la réalité, c'est que les gens ont un avis pour ou surtout contre le GPA en France. Mais ce n'est pas basé sur les vrais cas, ce n'est pas basé sur les vrais faits, comment ça s'est fait. Et je dis ça avec beaucoup de certitude parce que c'était le cas de mon mari. Mon mari était contre le GPA quand on a commencé à en discuter. Et force à être confronté par un vrai cas, comment ça allait se dérouler dans la vraie vie. Et là, changer d'avis.
Et c'est cette histoire que vous racontez donc à quatre mains avec la mère porteuse Amy Melton, puisque vous signez ensemble ce témoignage lorsqu'on n'a que l'amour qui paraît chez Flammarion. Sarah Lévin, merci beaucoup d'être venue aujourd'hui. Vous étiez à la une de la science.
Merci.
Et puis en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, le noyau de la Terre aurait son propre noyau. Une équipe de chercheurs chinois et américains est arrivée à cette conclusion en étudiant les vibrations générées lors des grands séismes. La graine, la partie la plus interne de notre planète, serait divisée en deux régions distinctes, une externe et une interne, aux caractéristiques géologiques différentes. Si cette information est validée, il faudra modifier rapidement les manuels scolaires. 50 voyages autour de notre Soleil, résumés en 5 minutes seulement, un satellite lancé par la NASA a capturé plus de 200 millions d'images de notre étoile, regroupée dans une vidéo que vous pouvez retrouver sur la page Facebook de La Tête au Carré. On peut notamment y voir de façon très détaillée des explosions en surface du Soleil qui sont très impressionnantes. Et puis 2500 coups de langue pour terminer une sucette. Des chercheurs de l'Université de New York ont étudié la vitesse de la disparition d'une sucette dans de l'eau en mouvement. Ils ont observé que les sucettes évoluent vers des formes similaires avec un arrière plat et un avant bombé. Ces résultats ne sont pas si futiles qu'ils en ont l'air puisqu'ils seraient utiles pour des applications sur la dissolution de matériaux pour les industries chimiques et pharmaceutiques. Allez, dans un instant, notre club avec Marcel Proust, les orangs-outans et les ennemis du végétarisme. Standing on the corner, suitcase in my hand, Jackson's corset, Jane is in her vest, and me, I'm in a rock and roll band. Huh. Riding a Stutz Bearcat, Jim. You know, those were different times. All the poets, they studied rules of verse, and those ladies, they rolled their eyes. CJ, oh, CJ, oh, CJ. I tell you something, Jack, he is a banker. Come home from work. Ooh, sitting down by the fire. Oh, the radio does play the classical music there, Jim. The march of the wooden soldiers. All your protest kids, you can hear Jack say. Well, they're gonna tell you that everything is just dirt. You know that women never really faint, and that villains always blink their eyes. Ooh. And that, you know, children are the only ones who blush, and that life is just to die. Sweet Jane de Lou Reed à l'instant sur France Inter.
La tête au carré. Le club.
André Didier-Jean, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de psychologie cognitive à l'Université de Franche-Comté et puis membre de l'Institut universitaire de France. Et vous publiez un livre original et inattendu, La Madeleine et le Savant. C'est une balade proustienne du côté de la psychologie cognitive qui paraît aux éditions du Seuil. Qu'est-ce que vous étudiez d'abord dans la psychologie cognitive ?
Alors, moi, je travaille sur, entre autres, l'expertise cognitive, comment change la mémoire lorsqu'on devient plus expert dans un domaine, également l'apprentissage et puis d'autres choses comme ça.
Ouais. Et Marcel Proust, alors, il joue un rôle important dans ses recherches, dans ses travaux ?
Pas dans mes travaux expérimentaux proprement dit, mais il joue, depuis quelques années, peut-être un rôle important dans ma vie par mes lectures et le plaisir que j'ai à le lire, disons.
Mais quand même, vous avez réussi à établir des liens entre lui et la psychologie cognitive.
Voilà, l'idée de l'ouvrage, c'était vraiment d'essayer de mettre en liaison les travaux, présenter les travaux contemporains en psychologie cognitive dans plein de domaines, et puis l'œuvre de Marcel Proust.
Donc il suffisait de se repencher dans son œuvre, et vous aviez de bons exemples. Alors de part d'abord son observation du genre humain, ça c'est absolument primordial.
Voilà, la psychologie cognitive se nourrit vraiment de l'observation des comportements, et s'il y a un écrivain sans doute qui décrit merveilleusement les comportements humains, c'est clairement Proust.
Ouais. Comment vous avez travaillé ? Alors il y a des œuvres en particulier vers lesquelles vous êtes retourné ?
Alors non, j'ai relu, on relit toujours Proust, mais j'ai relu la recherche avec vraiment l'idée de prélever de nombreux extraits à propos de nombreuses fonctions cognitives. Et puis après, il y a eu un énorme travail de tri parmi les centaines d'extraits recueillis pour cibler, dans le cadre de cet ouvrage, 10 grandes fonctions cognitives, 10 mécanismes particulier à mettre en liaison avec les extraits proustiens.
Alors, on va en prendre un premier pour donner quelques exemples. André Didier-Jean, il s'agit de la mémoire à long terme. Alors, qu'est-ce que c'est d'abord ?
Alors, le terme mémoire à long terme, en fait, il vient un peu d'une dichotomie entre mémoire à court terme, mémoire à long terme. L'idée, c'est que quelquefois, on a des registres de mémoire qui gardent les choses très peu de temps. Quelqu'un vous dit un numéro de téléphone, bah, quelquefois, le temps que vous allumiez votre téléphone, vous perdez la trace.
Ouais.
Et puis inversement, bah, on a des connaissances qu'on conserve sur du très long terme. On se rappelle de souvenirs de choses quand on était enfant, etc. Et donc ces souvenirs, ces connaissances sont stockés dans un type de mémoire qu'on a coutume de nommer mémoire à long terme.
Ouais. Et cette mémoire, justement, elle se développe pour des souvenirs particuliers ou pas ?
Alors, en fait, c'est un terme très générique qui désigne vraiment des registres de mémoire très différents. Évidemment, les connaissances qu'on a sur comment faire du vélo ne sont pas du tout stockées de la même façon et ne sont pas du même type que les connaissances que l'on peut avoir sur ce qu'on a fait la veille ou ce qui nous est arrivé dans la cour de récréation ouais. enfant.
Ça veut dire qu'il y a un tri qui est opéré par le cerveau, justement, entre ces mémoires courtes ou au contraire à très long terme ?
Alors, l'idée, c'est plutôt que les connaissances commencent la plupart du temps par transiter dans notre mémoire à court terme. Et puis ensuite, certaines informations vont être conservées en mémoire à long terme. Et puis d'autres ne vont pas l'être. C'est-à-dire qu'on ne peut pas stocker, évidemment, tout ce qu'on rencontre.
Donc il y a une sorte d'antichambre, hein, qui serait donc la mémoire à court terme. Voilà. Et puis ensuite, ça rentre dans la pièce principale ou ça ressort directement. Hein.
En gros, c'est ça. C'est l'idée, c'est qu'heureusement pour nous, on ne stocke pas tout ce qu'on voit, toutes les pensées qu'on a, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on sent. Notre cerveau fait du tri dans tout ça.
Et comment Proust en parle, alors, de cette mémoire à long terme ? Quel texte, par exemple, vous avez utilisé pour illustrer ce concept ?
Alors, évidemment, c'est sans doute le sujet qui est le plus présent dans l'œuvre de Proust. Hein, il est connu pour ça. Peut-être que je peux évoquer ce qui est l'exemple proustien le plus connu, qui est l'exemple de la Madeleine.
Ouais.
Donc, si on prend cet exemple, Proust, enfin le narrateur de Proust, dans cet exemple qui est sans doute le plus célèbre, en buvant une gorgée de thé, en goûtant un morceau de Madeleine, brusquement voit remonter à son esprit des souvenirs de son enfance liés à justement à ce goût et cette odeur. Puisque chez une de ses tantes, il mangeait des madeleines un peu similaires, etc.
Ouais.
Donc cet exemple proustien très connu illustre un phénomène très connu dans le domaine de la mémoire, qui est que nos connaissances sont la plupart du temps stockées avec des éléments de contexte. Alors pour bien comprendre ça, notre mémoire elle est confrontée un peu à une double contrainte. Il faut que les connaissances nous arrivent automatiquement à l'esprit, parce que sinon notre vie serait un enfer. C'est-à-dire, imaginez si à chaque fois que vous êtes devant... quelqu'un que vous connaissez, vous êtes obligé de vous dire qui c'est, je vais m'en rappeler, ah oui, c'est mon conjoint. Donc, heureusement pour nous, les connaissances arrivent à notre esprit automatiquement, face à une porte, vous arrivent les connaissances nécessaires pour ouvrir une porte. Mais ça comporte un risque, ce qui est le trop grand nombre de connaissances dans notre esprit. Inversement, si à chaque fois qu'on est devant une porte d'ascenseur rouge, nous revenait à l'esprit toutes les fois où on a vu une porte rouge, toutes les fois où on a pris l'ascenseur, on serait submergé de connaissances. Alors, de manière astucieuse, notre esprit a trouvé une solution. Elle attache les connaissances à des contextes.
Ouais.
Et c'est dans des situations avec des éléments de contexte similaires que les connaissances nous reviennent, partant du principe qu'en général, c'est dans notre cuisine qu'on a besoin de se rappeler comment marche le four. Eh bien, nos connaissances liées à notre four sont reliées à des éléments de contexte. Et finalement, ce phénomène de la Madeleine de Proust, c'est ça, ça illustre ce principe-là. Les connaissances, elles sont attachées à des éléments de contexte.
Voilà. Et donc, il y a des petits signaux qui nous permettent de réenclencher en fait, le souvenir quand on vit précisément ces contextes particuliers.
Voilà, c'est constamment. On s'en rend particulièrement compte dans des exemples comme celui de la Madeleine, où c'est des souvenirs très anciens, oubliés depuis longtemps, qui nous reviennent à l'esprit. Mais en fait, au quotidien, constamment, les connaissances qui nous arrivent la plupart du temps, automatiquement, sont parce que des éléments de contexte nous ont... rappeler ces éléments stockés.
Vous parlez des faux souvenirs également, André Didier Jean, interroger notre mémoire, est-ce que c'est sans influence justement sur nos souvenirs ou pas ?
Alors oui, il y a tout un chapitre de l'ouvrage sur un phénomène qu'on commence à bien connaître en psychologie, qui est le phénomène des faux souvenirs, parce qu'un grand nombre d'expérimentations permettent de montrer qu'on peut tout à fait avoir l'impression de se rappeler d'événements qu'on a vécu, et puis en fait, ne pas les avoir vécues.
On en avait parlé avec vous il y a assez peu de temps sur l'antenne, au sujet de ces personnes auxquelles on arrive à faire croire qu'elles ont commis des crimes, alors que ça n'a pas été le cas. Exemple de ces faux souvenirs.
Voilà, exemple typique de ces faux souvenirs. Dans des expérimentations, on arrive à montrer que finalement, en demandant aux gens de s'interroger sur le souvenir d'événements, et puis dans les expériences, on les manipule un peu, et on leur dit, voilà, vos parents nous ont raconté qu'il vous arrivait telle chose, et on dit quelque chose de faux, et bien, au bout d'un moment, à force d'essayer de faire remonter les souvenirs, les gens se rappellent d'événements qu'ils n'ont pas vécu, avec force détail, et...
Vous parlez donc également des visages, l'importance des visages. Ça aussi, c'est un passage du livre et qui est illustré par Proust avec À l'ombre des jeunes filles en fleurs. L'importance des visages, là aussi, il y a quelque chose qui s'opère immédiatement lorsqu'on est confronté à un visage face à soi. On l'interprète de différentes façons selon justement ce que ce visage nous renvoie aussi. Hein.
Oui, il y a de très jolis passages dans Proust sur la lecture des visages. C'est-à-dire que l'humain est vraiment spécialiste dans... l'interprétation de tout petits changements faciaux dans l'œil. Il y a un magnifique passage dans Proust dans lequel un personnage ne veut pas montrer qu'il connaît le père du narrateur et le narrateur, en tout cas ne veut pas le montrer à la personne à qui il est, mais quand même, par les reflets de l'œil, veut signifier au narrateur et à son père qu'il les salue amicalement. Et ouais. Voilà, l'humain a une extraordinaire capacité à exprimer des choses et, par le visage et lire des choses par le visage. Ouais. Et effectivement, dans l'ouvrage, je raconte plein de travaux expérimentaux qui visent à comprendre comment on reconnaît des visages, pourquoi est-ce qu'on juge des gens beaux
c'est
et
ça.
D'autres pas, par
Qu'est-ce
exemple.
Qui est en jeu, là, précisément? Et là aussi, c'est dans Proust, hein, pourquoi certains visages sont jugés beaux et d'autres pas?
Alors, tout d'abord, ce qui est vraiment en vogue en psychologie, c'est ce qu'on appelle les théories évolutionnistes. C'est l'idée selon laquelle on trouverait des visages beaux, on trouverait quelqu'un beau ou pas, parce qu'il est porteur, dans son visage, d'indices indiquant qu'il est porteur de bons gènes pour la reproduction. Donc il y a plein de travaux expérimentaux dans lesquels, via des modifications à partir de logiciels de retouche de photos de visage, on change des petites choses, on grandit un petit peu le nez, on écarte les yeux, on les rapproche. Et puis on demande à des gens de juger les visages sur des échelles, de dire s'ils les trouvent beaux ou pas. Et ce que montrent ces travaux, c'est qu'il y a un certain nombre de caractéristiques qui sont associées à la beauté. Par exemple, on trouve beau un visage qui est plutôt dans la moyenne des caractéristiques des visages. C'est-à-dire un visage qui a un nez ni trop grand ni trop petit, des yeux ni trop écartés ni trop proches. Donc, les visages jugés beaux sont en général
des
visages symétriques et qui ont des caractéristiques moyennes. Donc, il y a comme ça un certain nombre de caractéristiques qui sont associées à la beauté et qui sont, d'après les théories évolutionnistes, parce qu'on a appris à juger sans se rendre compte que quand on est porteur de ces caractéristiques, eh bien, on est sans doute, entre guillemets, un bon reproducteur pour l'espèce.
Et tout ça, inconsciemment, on se le représente
Alors tout ça inconsciemment, c'est une chose sur laquelle on s'interroge assez peu, on se demande assez peu finalement pourquoi est-ce qu'on trouve des gens beaux, d'autres pas.
Ouais, mais c'est peut-être ça qui est en jeu.
C'est sans doute une proposition. Aussi ça en tout cas.
Ouais, et chez Proust, on le retrouve dans Du côté de chez Swann avec la description d'Odette, c'est ça?
Alors c'est plus que ça, ce qu'il y a de très séduisant dans une des descriptions de Proust, c'est que Proust montre qu'il y a des facteurs quand même culturels et plus compliqués que ça sans doute. Donc il y a effectivement un très bel extrait que je mets dans l'ouvrage, dans lequel Swann est un peu maltraité par Odette, elle le trompe, c'est difficile, il se demande s'il ne perd pas son temps à aimer Odette. Et puis un jour, il réalise qu'elle ressemble énormément à une femme dans une fraise de Botticelli. Et alors là, brusquement, aimer Odette, c'est plus perdre son temps, puisque quelque part, c'est aimer une œuvre d'art.
Ouais.
Et donc, ce qu'il y a d'intéressant et ce que j'évoque, c'est que voilà, sans doute que ce qui nous fait trouver beau des visages, c'est un certain nombre de caractères issus de l'évolution, mais pas seulement sans doute chez l'humain, et que des choses comme la familiarité, etc. Et puis, dans cet exemple-là, la ressemblance avec une œuvre d'art peuvent également sans doute
voilà, autour de la beauté aussi et de sa subjectivité. André Didier-Jean, voilà en tout cas une façon de découvrir la psychologie cognitive, parce que c'était ça aussi l'objet du livre pour vous, c'était de faire connaître cette discipline, mais avec un biais formidable qui était celui de Proust.
Voilà, l'objet essentiel du livre, c'était vraiment d'essayer de proposer un ouvrage qui fait le point sur ce qu'on sait aujourd'hui en psychologie cognitive, au travers d'une dizaine de chapitres sur une dizaine de fonctions cognitives, l'apprentissage, la beauté, pourquoi est-ce qu'on a le sentiment d'être soi. L'idée, c'était de se dire, pour expliquer des choses, toujours, c'est quand même plus facile de comprendre si on a un exemple sous les yeux. Si vous voulez expliquer quelqu'un à la marche, il va mieux comprendre les mécanismes de la marche s'il voit quelqu'un en train de marcher. En psychologie, qu'est-ce qu'on peut avoir comme type d'exemple? Il y a un exemple qui est extraordinaire à chaque fois pour les comportements, c'est les extraits proustiens.
Ouais.
Donc l'idée de l'ouvrage, c'était ça, c'était présenter ce qu'on sait actuellement en psychologie, mais à partir d'exemples et d'illustrations issues de la recherche.
Voilà, avec cette vertu, c'est qu'on découvre votre discipline et puis ça donne envie de lire Proust en même temps, puisque vous en offrez des extraits dans cet ouvrage, mais ça peut aussi donner envie d'aller beaucoup plus loin et de replonger dans son œuvre La Madeleine et le Savant, cette balade proustienne du côté de la psychologie cognitive. André Didier-Jean est publié aux éditions du Seuil et c'est dans la collection Science Ouverte. Merci d'être venu nous en parler dans ce club.
Merci beaucoup à vous.
Et dans un instant, sur la piste des orangs-outans, la suite de ce club des têtes au carré.
Il se lève, s'élève, écrase son ego. Dans sa tasse de café, éteint la stéréo. Éteint le lampadaire, éteint le plafonnier. Dans la cuisine, mais la sécurité.
Un couloir, une porte, un lit, c'est la nuit. Quelques pistes pour dormir, je sais plus où je suis. Un store noir, une porte, un lit, c'est l'ennui. Rien à faire pour l'amour, mais ne dis pas toujours.
Mais où es-tu quand tu es dans mes bras? Que fais-tu? Est-ce que tu penses à moi? D'où viens-tu? Un jour tu partiras. Où es-tu? Quand tu es dans mes bras.
Je fais des mauvais rêves, je suis sur un mauvais câble. Dans la paranoïa, pas de marchand de sable. Je vois en panoramique urgente et désirable. Une blonde décapitée dans sa décapotable.
Cauchemar, highway, bad trip, fumée noire. Une vente vorace, tu es au fond d'un couloir.
N'en sors pas, cafard, bad trip, idée noire. Avalé par l'espace, au fond d'un entonnoir. Je veux m'enfuir.
Quand tu es dans mes bras.
Je veux m'enfuir.
Est-ce que tu rêves de moi?
Je veux m'enfuir. Je veux m'enfuir.
Tout seul tu finiras.
Je m'enfuis, je veux partir. Je veux de l'amour, du plaisir, de la folie, du désir. Je veux pleurer, je veux rire. Je m'enfuis, je veux partir. Je veux de l'amour, du plaisir, de la folie, du désir. Je veux pleurer, je veux rire.
Idées Noires, nouvelle version, le duo choc entre Bernard Lavilliers et Catherine Ringer.
La tête au carré. Le club. Sur France Inter.
Marc Ancrenas, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur et directeur de l'ONG UTAN. Est-ce que je le prononce bien?
UTAN.
UTAN. C'est la forêt en malaisien. Hein.
Exact.
Et vous travaillez avec les orangs-outans à Bornéo. Vous êtes conseiller scientifique également sur cette exposition dont on a déjà beaucoup parlé, sur la piste des grands singes, qui a débuté le 11 février dernier au Muséum National d'Histoire Naturelle. Quelle est la mission d'UTAN alors à Bornéo exactement?
UTAN est une association française que nous avons créé, Isabelle Lachmann, qui est primatologue en fait, et moi-même, en 96. Notre idée de départ, c'était de travailler avec le gouvernement de Sabah, donc en Malaisie, à Bornéo, pour essayer de comprendre si l'orang-outan, l'orang-outan de Bornéo, était capable de s'adapter à l'exploitation forestière, était capable de survivre dans des forêts dégradées, si vous voulez. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a une vingtaine d'années, les scientifiques pensaient que l'orang-outan ne pouvait pas survivre en dehors des zones intactes, des forêts primaires. Mais en même temps, quand on regarde l'exploitation forestière actuelle, des forêts primaires en Asie du Sud-Est, il n'y en a pratiquement plus. Et il se trouve qu'il y a une vingtaine d'années, quand nous on s'est promené à Sabah la première fois, on trouvait des orang-outans là où ils ne devaient pas être. Ils trouvaient des orang-outans dans des zones très, 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 très dégradées. Donc en fait, l'idée, c'était de comprendre si ces animaux peuvent survivre sur le long terme.
Et vous avez donc observé une adaptabilité de cet animal ?
Exact.
Ça a été une surprise ?
Complète.
Ouais.
Bien que tout le monde sait qu'on pouvait s'y attendre, les grands singes sont nos plus proches cousins, ils sont forcément intelligents. Mais le fait que, par exemple, pendant si longtemps, les scientifiques n'ont pas voulu se rendre compte ou n'ont pas voulu accepter cette évidence, c'était un peu surprenant. Quoi.
Ouais.
Mais donc, effectivement, ils peuvent survivre. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il y a un niveau d'adaptation sur lequel ils vont pouvoir jouer, mais...
Au-delà duquel, c'est plus possible,
duquel,
quoi.
C'est ouais.
Dans un contexte de destruction de la forêt, voilà. Qui est assez vertigineux hein, dans ces parties du globe.
Bornéo, actuellement, on a le rythme de déforestation le plus élevé de toutes les forêts tropicales,
ouais.
Donc principalement pour l'agriculture, mais aussi pour d'autres raisons, comme l'exploitation minière.
Ouais.
Donc effectivement, la forêt a disparu d'une vitesse hallucinante.
Quelle conscience du problème, là-bas, sur place, à Bornéo ?
Les gens le savent, les gens souffrent, parce qu'en fait, tous les ans, surtout pendant les sécheresses, on a des immenses feux de forêt donc
ouais.
Avec qui relâchent du carbone dans l'atmosphère, etc. Donc tout le monde en souffre sur place. Mmh. Mais bon, en attendant, en même temps, tout le monde veut avoir accès à sa voiture, à son téléphone, à son ordinateur, tout le monde veut du développement rapide.
Mmh.
Donc, il est là le vrai challenge, j'allais dire. Mmh. C'est-à-dire qu'il faut à la fois identifier des façons pour les gouvernements d'Indonésie, Malaisie et autres de se développer économiquement, mais en même temps, ne pas tout massacrer, ne pas détruire l'environnement, parce qu'au final, c'est l'homme, c'est nous qui allons en souffrir.
Et ces recherches donc, que vous menez sur place maintenant, alors quel recul vous avez, quel résultat vous avez obtenu sur ces travaux donc, autour des orang-outans ?
Donc on se rend compte que l'orang-outan à Bornéo, du moins, surtout dans la Kinabadrian, tant qu'il n'est pas chassé, parce que c'est quand même la raison essentielle
de sa
disparition,
aussi,
c'est la
beaucoup.
Chasse.
Ah oui ? On mange la viande d'orang-outan ?
On mange la viande d'orang-outan, pas partout dans Bornéo, mais
ouais.
Sur certains endroits, il est encore consommé. Ou alors il est chassé quand il rentre dans les plantations de villageois, par exemple, et qu'il détruit les fruits. Donc quand il n'est pas chassé, en fait, si on le laisse tranquille, il va pouvoir s'adapter. Il change un petit peu son comportement alimentaire. Sur notre zone, là, on le suit depuis 18 ans, on a identifié plus de 350 plantes qui font partie de son régime alimentaire.
Ouais.
Et par exemple, un de nos axes de recherche actuels, c'est de voir quelle est la relation entre les palmeraies et l'orang-outan. Et on se rend compte qu'en fait, certains orang-outans quittent la forêt, vont dans les palmeraies et commencent à utiliser, à manger les fruits de palmes. Le palmier à huile est originaire d'Afrique, donc ce n'est pas une plante que l'orang-outan
mange naturellement.
Mange naturellement, puisqu'il n'y en a pas.
Donc ça, c'est une adaptation aussi.
Voilà, c'est l'adaptation, c'est ce genre de comportement, si vous voulez,
ouais.
Qui nous intéresse. On veut savoir à quel point cette espèce, l'orang-outan, peut s'adapter à ces transformations drastiques
ouais.
de leur environnement.
Comment on explique qu'on ne trouve l'orang-outan que dans cette partie du monde ?
Bah, les orang-outans, en fait, avaient une répartition bien plus large il y a encore quelques dizaines de milliers d'années, jusqu'en Chine.
Ouais.
Et on pense que les deux principales raisons qui font que sa répartition actuelle, c'est juste deux îles, Sumatra et Bornéo, c'est premièrement les changements climatiques, deuxièmement l'arrivée de l'homme.
Mmh.
L'arrivée de l'homme, chasseur, une population de chasseurs, qui très facilement peuvent tuer un orang-outan, surtout depuis l'arrivée d'armes comme la sarbacane ou les arcs et les flèches. Les orang-outans, quand ils sont dans les arbres, ils ne bougent pas très vite. Donc, c'est des
ouais.
proies faciles pour l'homme. Donc, en fait, la cause essentielle du déclin de l'espèce orang-outan, c'est nous.
Est-ce qu'il reste encore beaucoup d'individus ou vraiment il y a une menace réelle qui pèse sur ces animaux ?
Menace est très réelle. Les estimations font état de, mettons, 60 000 individus au jour d'aujourd'hui à Bornéo. Ça peut être 50 000, ça peut être 80 000, on ne sait pas trop. Par contre, ce que l'on sait, c'est deux choses. Premièrement, c'est que tous les ans, on en perd de 2 à 4 000 sur l'île elle-même. À cause de la chasse principalement ou de la disparition de la forêt, de la déforestation. Deuxièmement, quand on fait des études génétiques sur les populations relictuelles, on se rend compte qu'elles représentent peut-être 10% de ce qu'on avait il y a 200 ans.
Mm-hmm.
Donc ça veut dire qu'en fait, des dizaines et des dizaines de milliers d'orang-outans ont été détruits. Ça n'a pas commencé hier, c'est pas juste les palmeraies par exemple qui sont responsables de ce déclin, c'est comme je disais tout à l'heure, plus la chasse liée à l'intervention humaine qui s'est amplifiée avec l'arrivée des colonisateurs occidentaux,
mm-hmm.
avec l'arrivée du fusil et des chiens.
Quelle est l'originalité, enfin la singularité d'un orang-outan par rapport à tous les autres grands singes qu'on peut découvrir d'ailleurs dans l'exposition en ce moment au muséum
hein. Si vous allez les voir à l'exposition...
D'abord sa couleur. Hein,
voilà, exactement.
Hein, parce qu'ils sont assez visibles, rouge-orange.
Mais en fait, quand ils sont dans
c'est
la forêt...
C'est lié à quoi d'ailleurs, cette couleur
Bonne question.
C'est lié
parce
à...
qu'ils sont très jolis, ils aiment bien, ils sont très coquets.
Ah
en
oui,
fait.
C'est ça, ouais. Sûrement, d'accord. Bon.
Mais en fait, à côté de ça, quand même s'ils sont rouges ou roux, sont très difficiles à voir dans la forêt.
Ouais.
Vous savez, surtout quand nous, on est humains, donc on est terrestres. Donc on les a toujours en contre-jour.
Ouais.
On les voit rarement en roue, comme on peut les voir à l'exposition. Vous verrez deux.
Alors par rapport à un chimpanzé ou par rapport à un gorille, qu'est-ce qu'il y a comme leur taille, évidemment, pas du tout la même.
La taille en fait intermédiaire entre celle du gorille et du chimpanzé. La grosse différence entre les orang-outans et les grands singes africains. Premièrement, ils sont principalement arboricaux, ça veut dire qu'ils vont passer l'essentiel de leur vie dans les arbres, dans la cime, dans la canopée.
Donc ils dorment aussi dans les arbres.
Ils dorment dans les arbres.
Ils font pas de nids au sol comme les gorilles, par exemple.
Non. Ils font des nids dans les arbres. Et l'autre grosse différence, c'est qu'ils sont beaucoup plus solitaires. Ils sont beaucoup moins sociaux que les gorilles ou les chimpanzés ou les bonobos africains.
Donc moins de groupes.
Ils ne vivent pas en groupe.
Pas du tout. Une fois que les petits sont élevés, chacun repart de son côté.
En fait, c'est même plus que ça. C'est que le seul groupe que vous pouvez trouver, c'est une femelle et son jeune.
Ah oui.
Et le jeune va rester avec sa mère pour peut-être une dizaine d'années, jusqu'à ce qu'un nouveau petit frère ou une nouvelle petite sœur va naître. L'intervalle entre deux naissances successives, en moyenne, c'est de 6, 7, 8 ans. Donc en fait, c'est une espèce qui est très très lente au niveau de reproduction. Donc c'est l'unité de base, l'unité sociale de base, la mère et l'enfant, c'est tout. Le père ne va pas du tout participer à l'élevage du jeune. Donc ils aiment bien être tout seuls, ils aiment bien être solitaires. À côté de ça, on les appelle semi-solitaires, parce que même s'ils sont tout seuls dans la cime des arbres, ils savent très bien qui il y a alentour, et garde contact entre eux. Comment, vous ne me le demandez pas, parce qu'en fait, c'est très difficile pour nous, scientifiques ou humains, de comprendre
la communication entre les orangs. C'est inouï, en fait.
Ouais. Ils sont beaucoup moins vocaux, par exemple, que les chimpanzés.
Ouais,
ils crient quelquefois, mais c'est très difficile. L'orang-outan passe énormément de temps assis dans les arbres. Pour moi, c'est un penseur.
Est-ce que vous arrivez à impliquer les communautés locales autour de leurs problèmes?
C'est notre... principal axe d'intervention, en fait, c'est impliquer les communautés locales dans la conservation de l'espèce. Pas juste l'orang-outan, mais la forêt en général et la biodiversité qui est attenante. Donc en fait, depuis le départ de notre programme, depuis le départ de Outan et du Kinabatangan, Orang-Outan Conservation Program, l'idée, c'était vraiment de travailler avec les locaux, afin que les locaux deviennent les défenseurs, les ambassadeurs, si vous voulez, pour la protection de la nature. Parce qu'au final, ce qu'il se passe dans ces endroits-là, c'est qu'on a des populations locales qui partagent l'habitat de ces animaux qu'on veut protéger. Donc, pour moi, la meilleure approche possible, c'est d'essayer de faire en sorte que ces populations locales et ces animaux puissent cohabiter ensemble. Donc, il faut identifier les problèmes, trouver des solutions. Donc, en fait, ça passe par, effectivement, impliquer et travailler avec les communautés locales.
Et avec les industriels, vous arrivez à bosser ou pas?
Avec les industriels et avec le gouvernement.
Aussi.
Tous les acteurs qui sont présents sur la zone doivent être impliqués dans nos efforts de conservation.
Mais vous avancez avec eux ou pas?
On avance tout doucement.
Il y a des progrès qui sont faits, vraiment? Vous arrivez à freiner des projets?
On arrive à les transformer, si vous voulez. Pas à les freiner forcément, mais à essayer d'avoir des politiques de développement du paysage un petit peu moins agressives. Donc en fait, l'idée, c'est quand même de mettre en place des paysages où le développement économique peut se faire, où le bois peut être exploité, où les palmiers peuvent être plantés, etc. Mais en même temps, être sûr de minimiser les impacts négatifs sur ces animaux, les orang-outans ou autres que nous voulons protéger.
Et évidemment, ils ont leur place au sein de cette exposition, sur la piste des grands singes, à voir donc depuis le 11 février. On a le temps, c'est pendant plusieurs mois, au Muséum National d'Histoire Naturelle. Et vous avez été un des conseillers scientifiques, Marc Ancrenaz, sur cette exposition. Merci beaucoup d'être venu nous en parler cet après-midi.
Je vous en prie, venez les voir à Bornéo.
Ah ben avec plaisir, on viendra les voir. Mais il faudra grimper dans les arbres, donc apparemment.
Exact.
Merci à vous. Le végétarisme et ses ennemis, c'est dans un instant.
Annie El-Khatib, Melt Me.
Le club au carré sur France Inter.
Bonjour Renan Larue.
Bonjour.
Vous êtes enseignant-chercheur en littérature française à l'Université de Montréal et donc vous publiez cet ouvrage « Le végétarisme et ses ennemis, 25 siècles de débats », c'est aux presses universitaires de France. Alors la première question qu'on a envie de vous poser, pourquoi 25 siècles de débats ? C'est une réalité historique dans l'histoire du végétarisme ?
Oui, effectivement, ça peut paraître étonnant. On a souvent tendance à croire que le végétarisme, le véganisme encore plus, sont des modes récentes. Mais quand on se plonge dans les textes antiques, on se rend compte que les débats sont extrêmement forts entre diverses écoles philosophiques, les pythagoriciens par exemple, les orphiques, les néoplatoniciens d'un côté, et puis de l'autre côté, les stoïciens ou les épicuriens, qui s'affrontent sur pas mal de choses, mais sur cette question de la viande, des devoirs qu'on aura à l'égard des animaux, etc. Donc c'est effectivement un débat très vieux et en même temps très intense entre différents philosophes.
Ouais. De quelle façon alors on échange dès l'Antiquité sur cette question du végétarisme ? Enfin, c'est une question très clivante déjà à ce moment-là ?
Oui, alors sur l'alimentation en tant que telle, pas vraiment, parce que les philosophes qui soient végétariens, véganes ou carnistes, c'est-à-dire qui ont une idéologie qui justifie la consommation de viande, dans les faits, ils ont à peu près le même régime, puisque les uns comme les autres, je parle des philosophes, hein, ouais. pas des gens du commun, les philosophes, ces êtres d'exception, ont un régime très frugal en général. Ce qui fait que les philosophes anti-végétariens ne vont jamais vraiment reprocher aux pythagoriciens leur régime. En revanche, ils vont reprocher leur idéologie. Et là effectivement, c'est très très différent. Pour les stoïciens, il est très clair que un dieu, ou les dieux, plutôt le dieu, l'être suprême, a créé l'univers tout entier pour les êtres humains. Et tout le reste, tout ce qui n'a pas de logos, tout ce qui n'a pas de raison, les animaux, la nature en général, sont faits pour les êtres doués de raison. Les pythagoriciens vont dire exactement le contraire. Nous sommes, explique-t-il, des animaux parmi d'autres. Il n'y a pas de différence de nature, mais simplement des différences de degré. Et le monde, leur vision du monde n'est pas du tout anthropocentriste, bien au contraire. Donc c'est moins sur des questions de diète que sur des questions de vision du monde, ce qui est évidemment beaucoup plus large et beaucoup plus intéressant aussi.
Et alors du coup, le végétarisme, on en discute donc dès l'Antiquité, et au cours de tous les siècles, après, c'est une question qu'on peut trouver au cœur des débats de société ?
Alors, dans l'Antiquité, c'est un sujet extrêmement important. C'est aussi un sujet très important au début du christianisme, parce qu'on a l'Église officielle qui est en train de se constituer, puis plein d'autres petites sectes religieuses, plus ou moins importantes, qui, au contraire de l'Église officielle, on va dire, prônent le végétarisme, prônent le respect pour les animaux, la compassion, etc. Et là, les débats sont extrêmement intenses, parce qu'il s'agit pour l'Église officielle de faire entendre une seule voix, la voix d'un végétarisme qui ne peut être qu'ascétique, c'est-à-dire un végétarisme qui implique le refus de la viande, parce que la viande est la nourriture la plus chère, la plus délicieuse, la plus roborative, etc. Donc ça c'est un bon végétarisme qui permet d'affaiblir le corps et donc d'élever l'âme. Et puis ces végétariens-là sont aussi favorisés en quelque sorte, ou sont aussi bien vus que d'autres végétariens. Les végétariens, pour des raisons morales, sont mal considérés. Pourquoi ? Il y a plusieurs raisons. Il me semble que la principale, c'est qu'ils mettent en cause ces végétariens éthiques, le Christ et son infinie charité, puisque le Christ est un, très clairement d'après les évangélistes, un consommateur de viande, de poisson, c'est un pêcheur. Voilà. Et n'importe quel végétarien ridiculise en quelque sorte ou met en évidence les limites de la charité chrétienne, puisque eux élargissent le cercle de la compassion, non pas seulement aux juifs, non pas seulement aux êtres humains, mais encore plus loin à l'animalité tout entière. Et de ce point de vue-là, n'importe quel végétarien, n'importe quel végétalien, pour des raisons morales, est plus charitable que le dieu d'amour. Voyez, donc c'est très très difficile et très très embarrassant pour l'Église officielle.
C'est une position qui est difficilement tenable, encore aujourd'hui d'ailleurs, ou pas ?
Aujourd'hui, l'Église catholique, et c'est encore plus clair dans le monde protestant, voit d'un meilleur œil les végétariens. Évidemment, il n'y a plus d'excommunication comme il y a pu avoir lieu dans les premiers siècles. Mais il me semble que dans le monde catholique, on a encore quelques réticences à l'égard des animaux, puisque, par exemple, je mentionne dans le livre le catéchisme de l'Église catholique, qui est apparu il y a quelques années, qui soutient très clairement que l'univers tout entier n'a été créé que pour l'espèce humaine, passé, présente et à venir. Donc cet anthropocentrisme-là, il est encore très attaché, très présent dans l'esprit de la papauté ou des grands théologiens catholiques. Même s'il y a eu un infléchissement depuis Jean-Paul II, le pape François, il y a quelques semaines, a eu des mots plutôt favorables à l'égard des animaux. Mais il me semble que cette attitude dont je me réjouis, disons, a un peu de mal à se faire entendre, étant donné que les textes, textes des pères de l'Église, même les textes de saint Paul, etc., sont quand même radicalement, à mon avis, hostiles au végétarisme.
Ouais. Cette question de l'animal, justement, elle est absolument centrale dans cette thématique du végétarisme aujourd'hui.
Il y a plusieurs facteurs. Il y a des travaux de sociologues, de psychologues qui commencent à se pencher sur le phénomène végétarien et vegan, notamment aux États-Unis, où le mouvement est beaucoup plus fort qu'en France. Il y a trois principales raisons qui sont évoquées. La première raison, la plus importante dans le fait de choisir d'adopter une diète végétarienne ou végétalienne, c'est le respect pour l'animal, effectivement. Les gens peuvent voir des scènes d'abattage à la télévision ou sur Internet. En général, ça constitue une sorte de déclic pour eux. L'autre argument, c'est l'argument diététique, puisqu'il y a une espèce de consensus qui est en train de se faire jour. En tout cas, aux États-Unis, c'est très clair. Il est très possible d'être en très bonne santé, voire même en meilleure santé en étant végétalien ou végétarien qu'en mangeant la viande. Parce que la viande, les produits animaux dans leur ensemble, le fromage, est un des principaux responsables de maladies cardiovasculaires. Et ce message-là commence à se faire entendre aux États-Unis. Troisième aspect qui est vraiment mis en avant par les véganes, c'est la dimension écologique. Et là, c'est aussi le cas de beaucoup de scientifiques, d'institutions aussi reconnues, respectées que l'ONU, parce qu'on a ce rapport de la FAO qui a fait couler beaucoup d'encre, qui a paru il y a quelques années, qui montre très clairement que l'élevage est le premier responsable, ou un des tout premiers responsables du réchauffement climatique. C'est le premier responsable, évidemment, de la destruction de la vie dans les océans. La pêche fait des ravages dans nos océans et dans nos mers. La consommation de viande implique, donc l'élevage implique, qu'on cultive des quantités considérables de soja, de blé, etc., légumineuses, pour nourrir les animaux. Et en fait, qui dit production énorme de soja, de légumineuses, de blé, de céréales, etc., implique de la pollution. Donc en fait, on va consommer considérablement d'eau pour faire pousser ces plantes, on va épandre des quantités astronomiques d'insecticides, de pesticides, et donc polluer les terres et les rivières, pour nourrir quoi ? Pas les hommes, ou les hommes oui indirectement, mais pour nourrir les animaux dont on va se nourrir nous-mêmes. Donc c'est une espèce de gâchis énergétique qui est scandaleux.
Voilà. Alors justement, est-ce que cette question de l'écologie, du traitement, du bien-être animal et puis la question diététique, est-ce que vous enregistrez en France et dans le monde une recrudescence justement du végétarisme ? Il y a cette prise de conscience liée à différents facteurs, mais est-ce que concrètement ça se traduit dans les assiettes ?
Il me semble qu'il y a certains signes qui ne trompent pas. J'ai vécu en France très longtemps, là je vis en Amérique du Nord. On assiste dans une ville comme Montréal, mais aussi dans des villes comme New York, San Francisco, Portland, à une espèce de floraison de restaurants végétariens et véganes. C'est quelque chose d'assez spectaculaire.
La différence entre les deux, d'ailleurs, entre le végan et le végétarien.
Oui, les végétariens refusent de consommer des produits carnés, c'est-à-dire ils refusent de consommer le corps des poissons ou ils refusent de consommer la viande.
Mais ils peuvent consommer des œufs
ou
du lait.
Exactement. Mmh. Les végétaliens, eux, vont plus loin, donc ils refusent de consommer, enfin d'absorber la chair animale, mais aussi le lait, les laitages et les œufs. Et les véganes vont plus loin, puisqu'il s'agit là vraiment clairement d'un mouvement politique ou social. Ils refusent l'exploitation des animaux, c'est-à-dire qu'ils vont être non seulement végétaliens, mais ils vont refuser d'assister à des corridas. Mmh. Ils vont refuser, dans la mesure du possible, d'acheter
des matières en cuir, par exemple.
Des matières en cuir, la fourrure, la laine. Ils vont refuser aussi les cosmétiques testés sur les animaux, etc. Donc on assiste vraiment en Amérique du Nord, mais c'est aussi le cas en Australie, dans le nord de l'Europe, à une espèce de floraison, en quelque sorte, de restaurants véganes. Et ça me semble être un signe vraiment important, enfin très clair, indiscutable, que le mouvement commence à prendre de l'ampleur.
Et qu'il y a de plus en plus de consommateurs, en tout cas.
Oui.
Vous êtes végane vous-même
dans
la rue ou pas ?
Je suis végane, oui.
Donc c'est un acte politique pour vous, avant d'être un acte diététique, par exemple ?
Je dirais que c'est un acte philosophique. Dans l'Antiquité, il était très clair que le philosophe réfléchissait, pensait, faisait des recherches spéculatives, pas pour elle-même, mais pour savoir comment il était bon de vivre. Que dois-je faire ? Voilà, ça c'est la vraie question philosophique. Dans l'Antiquité, la philosophie, c'est pas une pratique intellectuelle, c'est un mode de vie. Alors de ce point de vue-là, je pense que le véganisme est vraiment une philosophie en action, c'est-à-dire véritablement une philosophie, mais c'est aussi un acte politique et social, puisque en refusant de donner de l'argent à des producteurs de viande, de fromage, etc., effectivement, moi et d'autres véganes, nous agissons politiquement.
Ouais. Est-ce que ça reste un acte marginal, en France en particulier ?
Oui, bien sûr, c'est marginal. C'est marginal en France en particulier, c'est-à-dire qu'en général, quand on explique ce qu'est le végétalisme, ce qu'est le véganisme, on vous regarde avec de grands yeux surpris.
Donc ça veut dire que socialement, c'est dur à soutenir quand on est en France ?
Oui, bien sûr, effectivement. Quand on est un peu trop différent des autres, on n'échappe jamais aux moqueries, mais dans le cas du végétarisme et plus encore du véganisme, les gens sont réticents, même si sur le fond, ils sont souvent d'accord avec les végétariens et les véganes. La plupart des gens sont d'accord pour dire que les abattoirs industriels, c'est pas formidable. Ils sont d'accord pour dire que l'élevage intensif, c'est pas super. Mmh. Ils sont d'accord pour dire que les océans sont en train de se vider. Donc la plupart des gens sont d'accord, mais pratiquement, puisque l'offre végane, l'offre végétalienne est réduite, ça paraît un pas infranchissable. Mais quand on change de pays, Amérique du Nord par exemple, Australie, ces pays que j'ai mentionnés, ça paraît beaucoup plus simple puisqu'on traverse la rue puis on trouve des options véganes dans les restaurants, ouais. On trouve même des restaurants véganes.
Ouais. Mais c'est vrai que socialement c'est compliqué. Hein.
C'est évidemment très
quand
compliqué.
Quand on arrive chez des amis et qu'il faut justement trouver quelque chose de commun dans l'assiette.
Exactement, ça implique de repenser la cuisine évidemment.
Au siècle des Lumières, c'est Voltaire en France justement qui est un des grands défenseurs de la cause végétarienne.
Oui, Voltaire et beaucoup d'autres dans la seconde moitié du XVIIIe siècle pour différentes raisons philosophiques, mais peut-être surtout sociales. Les gens deviennent de plus en plus sensibles en général et en particulier à la souffrance des animaux. Et donc, cette question de la souffrance animale soulève beaucoup de questions philosophiques, théologiques, morales. Pourquoi souffrent-ils ? Avons-nous le droit de les faire souffrir ? Alors, Dieu est en train de mourir en Occident à ce moment-là. On est de plus en plus sceptique par rapport, en tout cas, peut-être pas Dieu, mais en tout cas la religion chrétienne est sur la pente descendante. Et donc, on a beaucoup de problèmes théologiques qui se posent. Pourquoi est-ce que Dieu nous autorise de les manger ? Peut-être que Dieu ne nous autorise pas à les manger, finalement. Voilà. Et on a plusieurs philosophes. Donc, il y a le cas de Voltaire, effectivement. Rousseau, qui réfléchit de manière extrêmement précise à notre régime primordial et aux devoirs que nous devrions avoir envers les animaux. Mais ce sont deux philosophes immenses, mais l'ambiance est plutôt favorable aux animaux, en tout cas d'un point de vue intellectuel. Mais si les gens continuent à manger de la viande, cette question d'un végétarisme moral se pose avec acuité, me semble-t-il.
Et donc, les ennemis restent hein, de tout temps, et c'est le cas encore aujourd'hui.
Oui, effectivement, on s'est beaucoup moqué des végétariens dans l'Antiquité, on continue à s'en moquer aujourd'hui encore, c'est une espèce de constante, mais ça, à mon avis, ça s'explique par une gêne, puisque c'est ce que je disais tout à l'heure, les gens, malgré ce qu'ils en disent, ont tendance à être d'accord avec les végétariens et les véganes, ils sont d'accord pour dire que polluer, massacrer des animaux, c'est pas bien, et ça heurte leur morale, et pour essayer de défendre leur pratique quotidienne, qui est carnivore. Ils sont obligés, en quelque sorte, de ridiculiser ou de mettre à distance la thèse, la vision du monde des végétariens ou des véganes qu'ils ont en face d'eux.
Et la France occupe une place, on a ce sentiment, en tout cas un peu particulière, dans cette opposition, justement, au végétarisme, hein, par rapport à toute l'Amérique du Nord, mais aussi aux pays scandinaves, dans certains pays d'Europe de l'Est. On est un peu en retard, quand même, sur cette question, ici.
On est en retard, mais disons, ce retard se faisait déjà sentir au XVIIe, XVIIIe siècle. Les Anglais qui étaient plus compatissants à la guerre des animaux. Il y a beaucoup de voyageurs anglais, XVIIe, XVIIIe siècle, qui vont en France et qui sont outrés par la manière dont les Français traitent les animaux. Donc voilà, cette espèce de décalage dans les sensibilités, elle est notable, ça c'est certain, au XVIIe, XVIIIe siècle. Il me semble qu'elle est encore présente aujourd'hui. Donc si on garde ce paradigme-là, il me semble que dans peut-être 20-30 ans, on rattrapera en France ce qui se fait dans les pays d'Amérique du Nord ou du Nord de l'Europe.
Et c'est là que vous vivez maintenant, et voilà. C'est beaucoup plus confortable
c'est
pour
beaucoup plus
un
facile, effectivement,
vegan,
pour
hein,
un vegan de s'épanouir.
Merci Renan Larue, Le végétarisme et ses ennemis, donc c'est 25 siècles de débat, et ce livre paraît aux Presses universitaires de France. Merci beaucoup.
Merci.
Ainsi s'achève ce Club des Têtes au Carré. Merci à Violaine Ballet qui l'a réalisé. Merci également à Jean-Michel Montu qui a signé la programmation musicale de l'émission. Dans un instant, Affaires Sensibles avec Fabrice Drouel pour vous emmener tout doucement vers le week-end. À très bientôt, on se retrouve lundi en direct.